Midi 50 minutes, on va parler à M. Savard Tremblay. Ça fait un petit bout de temps, je m'ennuyais. Bonjour, M. Simon-Pierre.
Salut Robert, moi aussi je m'ennuyais, je suis content de te parler.
On va parler un petit peu de politique. C'est drôle l'histoire dans Gaspé. Quand je lis ça, je me dis, mon Dieu, on recule 50 ans en arrière. Je dis, 75 ans.
Un éminent réfluvien, jadis, Maurice Duplessis, s'était déjà fait demander comment se fait-il que dans tel village, il y a eu plus de votes pour l'Union nationale qu'il y a de gens inscrits sur la liste électorale. Il avait dit on peut pas empêcher les gens d'être particulièrement motivés par l'Union nationale.
On peut pas empêcher un cœur d'aimer. Si je vous raconte ça, c'est qu'il y a eu recomptage judiciaire dans Gaspé. Et finalement, le Parti québécois a gagné un 10e siège. Bonne nouvelle, ils deviennent la deuxième opposition officielle. Pour expliquer aux gens ce qui s'est passé, le 1er octobre, le relevé de dépouillement de la boîte, je vais être précis, là, c'est la boîte 61, donnait 194 voix au libéral. Là, on a fait le dépouillement judiciaire, puis là, on se rend compte finalement qu'il y avait 79 votes en faveur des libéraux, mais il y en avait quand même 74 pour la péquiste, puis il y en avait une couple pour les caquistes et tout ça. Alors finalement, la fille du Parti québécois, elle passe devant, puis elle gagne ses élections. Est-ce que tu penses qu'il y a là de la tricherie ou, comme le dit le directeur du scrutin dans Gaspé, Yvan Landry, lui, il dit que c'est tout simplement une erreur plate?
Ben, c'est une erreur plate qui change tout d'abord sur l'emploi de deux personnes d'abord, là, sur qui va occuper le poste de député. Ça change tout au niveau de la volonté politique des gens de ce comté-là. Une victoire par 3-4 votes, c'est serré, mais c'est une victoire pareille. Fait que ça change tout en soi sur quelle sera la couleur de la circonscription. Puis une boîte aussi, une erreur plate, si c'est vraiment une erreur plate, qui change tout au niveau parlementaire, parce que ça change quel parti sera la seconde opposition officielle, parce que Québec solidaire, rappelons-nous, le soir de l'élection, avait 10 élus annoncés, tandis que le PQ en avait 9. Mais là, puisque le PQ en a 10, et parce que il arrive donc au nez à nez en termes de sièges avec Québec solidaire, mais étant donné que le PQ a eu plus de votes, c'est le PQ qui aurait le statut de deuxième groupe d'opposition. Par contre, à ce niveau-là, puis ça peut paraître très dans le détail du droit parlementaire, c'est qu'à ce niveau-là, il faut néanmoins, selon les règles, qu'un parti obtienne 12 députés pour pouvoir être parti reconnu. Être parti reconnu, ça veut dire que tu as le droit à des budgets de recherche, que tu as le droit à un whip, tu as le droit à un leader parlementaire, tu as le droit à un chef parlementaire, c'est-à-dire payer avec un salaire de plus, parce que là, on l'a vu, par exemple, le PQ a choisi son chef parlementaire avec Pascal Bérubé, mais c'est un petit peu comme le Bloc québécois à Ottawa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surplus de salaire, parce que c'est un peu une entente entre eux, là. C'est entre eux qui décident de s'asseoir dans une salle puis de dire, on se choisit un chef, un leader et un whip, alors que il n'y a pas de reconnaissance officielle. Mais là, si... Il faut 12 députés pour avoir une reconnaissance officielle, ce qui te permet donc d'avoir plus de questions, d'avoir des budgets, ce qui change tout. Mais par contre, François Legault s'est dit ouvert à peut-être changer les règles à ce niveau-là. Ouais. Donc peut-être que là, le PQ vient de se garantir vraiment une position plus avantageuse qu'on le pensait le soir des élections.
D'ailleurs, François Legault, qui, avant même d'avoir assermenté son conseil des ministres, il est toujours désigné et non pas premier ministre officiel du Québec, ça va se faire la semaine prochaine, mais a déjà annoncé ses couleurs, entre autres pour ce qui est des signes religieux. Est-ce qu'il a avancé de 2 pas et reculé de 3 pas en arrière? On sent ici une valse hésitation.
Bon, je serais peut-être pas fin, là, mais c'est... Tu sais, quand il y a eu la déclaration au jour 2 de l'élection des deux députés de la CAQ, soit de Geneviève Guilbeault et de Simon Jolin-Barrette,
oui,
qui seront probablement ministres dans le gouvernement qui sera bientôt annoncé, là, je pense que on risque pas grand-chose en faisant cette prédiction-là. J'ai l'impression là que ça faisait deux jeunes élus, parce qu'ils sont pas là depuis très longtemps, qui, là, sont contents de pouvoir faire leur smat devant les caméras, parce qu'il faut dire qu'ils ont pas fait cette annonce-là en bonne et due forme quand ils ont dit « Nous allons congédier les gens qui refuseront de retirer leurs signes religieux ». J'ai l'impression qu'il était... D'abord, c'est une question qui leur a été posée. C'était pas une annonce pour ça qui était faite. C'est une question qui leur a été posée. J'ai l'impression qu'il était très content là, d'avoir le micro puis de dire « Haha, nous annonçons la politique du gouvernement. » Je pense que c'est beaucoup plus sage dans tous les cas ce que François Legault vient d'annoncer, c'est-à-dire que il y aura une clause de droits acquis qu'on appelle clause grand-père. Ça veut dire que on change le règlement, que pour certains fonctionnaires de l'État qui sont en position de coercition, donc on parle des juges, des enseignants, des policiers, que pour ces fonctions-là, qu'autrement dit, on change le règlement, ce sera clair que vous n'avez pas le droit d'afficher votre signe religieux à partir de maintenant. Mais si vous êtes déjà embauché, si vous êtes déjà en poste, on va pas vous virer pour ça. Là, il y en a qui disent, ouais, mais par exemple, si moi j'arrive avec mon signe religieux, c'est plate parce que je me fais embaucher demain matin, puis le règlement est passé hier, puis là, ma collègue ou mon collègue, parce qu'elle ou il a été embauché avant hier, a le droit d'avoir son signe religieux, puis pas moi. Oui, ça crée une injustice de ce côté-là. Par contre, et je dis bien par contre, faut penser à long terme des fois. L'histoire, ça dure longtemps. D'ici 30-40 ans, les gens qui ont ce droit acquis vont être partis à la retraite, puis le règlement va être clair pour tout le monde, puis il n'y aura pas d'inégalité là-dessus. Là.
Oui, c'est comme dire l'éternité, ça dure longtemps, surtout vers la fin.
Oui.
Merci beaucoup.
Ben, c'est ça. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on est à la fin de l'éternité? Parce que, puis ça, personne n'en parle. On est encore à refaire le débat des signes religieux au Québec, mais il y a un rapport assassin des scientifiques de l'ONU, comme quoi on court à la catastrophe au niveau du climat. Personne n'en parle au Québec. Même on a un gouvernement qui veut investir en plus sur un troisième lien Québec-Lévis. Plus de chars encore. Let's go tout le monde.
Ouais, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Il faut tenir le débat. Le problème ici, c'est que sais-tu pourquoi ça intéresse plus ou moins les politiciens? Parce que le peuple, en général, s'en fout carrément. On nous parle, mettons, de catastrophes qui vont survenir dans 50 ans ou dans 100 ans d'ici. Toi puis moi, on va manger les pissenlits par la racine. Fait que là, on se dit, on balaye ça dans la prochaine génération en disant, ben, ils se débrouilleront avec le problème. Nous autres, on continue à vivre, puis à se gâter, puis à se faire du plaisir dans notre vie.
Moi, ben dans ce cas-là, faut pas faire d'enfants. Tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que on continue à faire des enfants, en disant pour mon bonheur personnel, je vais élever ces petits êtres-là, puis je vais les aimer, je vais tout leur donner. Mais en même temps, j'agis avec une totale insouciance qui fait en sorte que je leur lègue un air irrespirable pour leurs années de vie.
On va en reparler. On fera tout un sujet juste là-dessus, tellement c'est important. Je te souhaite de passer, Simon-Pierre, une très belle journée.
À bientôt, Robert.
Simon-Pierre Savard-Tremblay, midi 58 minutes, Paul Hood dans un petit moment. Vous savez que, et Serge, tu peux te joindre à moi maintenant, ton équipe favorite, celle que tu défends depuis des années, même contre vents et marées.
Les Penguins de Pittsburgh.
Oui. Va entreprendre sa série de matchs locales ce soir au Centre Bell.
Surtout qu'il y avait beaucoup de vent, du moins la saison dernière. Là.
Je trouve ça tellement niaiseux. Pourquoi? Là, je vais te le dire. À soir, là, je vous écoutais à matin, là, avec Villeneuve, puis Catherine, puis toi, puis là, vous donnez des billets pour aller au Canadien, c'est le fun.
Oui, c'est lundi, contre Détroit.
C'est lundi, bon. Ouais. Mais ce que je trouve niaiseux, c'est que ce soir, ils vont faire une cérémonie. Tournons le couteau dans la plaie. Ça fait déjà 25 ans qu'on a déjà été des glorieux.
Ben oui. Dernière Coupe Stanley, Robert.
Tu
sais qu'il y en a qui l'ont jamais vécu, ça, dans les jeunes, justement.
Oui. Tu trouves pas que c'est une cérémonie de loser?
Écoute, moi je trouve que, heureusement que l'équipe s'est assez bien débrouillée les deux premières rencontres, qui a récolté 3 points sur une possibilité de 4, parce qu'effectivement, ça, je disais à Catherine ce matin, s'il avait fallu qu'ils perdent puis qu'ils se fassent ramasser les deux premiers matchs.
Il aurait jamais fait ça, d'abord.
Et que ça aurait pas été évident.
En tout cas, ça, ce soir, je trouve que c'est ordinaire, pas à peu près.
Arrête.
Discussion avec Paul Hood après la pause.